France Inter.
Monsieur Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors si vous poussez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau.
CO2, mon amour.
Mais dites donc, ça lui arrive souvent?
Mais non, monsieur Brun, mais non.
C'est-à-dire qu'il est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague. On l'appelle le sous-marin.
Denis Chessoux.
Mais non, Panix, vous connaissez pas bien ce bateau et c'est vous qui me l'avez fait acheter. Franchement, est-ce que ce bateau chavire?
Mais mon cher monsieur Brun, mais tout chavire dans la nature. Et naturellement, surtout les bateaux.
Ouais, surtout celui-là, alors.
Vous garantir que le Pitaluga ne chavirera jamais, je ne le peux pas.
Oh, que non.
Mais ce sont les risques de la navigation.
Sur France Inter.
Ah, il n'y a pas de doute, hein, avec ce bel accent marseillais, nous allons partir dans les Bouches du Rhône et dans cette société, dans cette Union européenne qui a des qualités, mais qui décide quand même de s'affranchir en partie de l'écologie, qui, c'est bien connu, est contre l'économie, où l'agro-industrie et le chalutage en zone protégée vont se régaler. En France, ça va être pareil. Eh ben, la nature qui chuchote à vos oreilles, hein, c'est presque un slogan de résistance. Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous accueillir donc dans CO2 Mon Amour avec Rémi Sistiaga à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et c'est Julie Degout qui réalise l'émission. Ah, on en a soupé du mois de mars, des pluies d'obus qui ont un bel avenir malheureusement, des rafales de vent et d'avions, des giboulées de saison. Et pensez donc, avec un dieu romain de la guerre qui s'appelle Mars, on n'est jamais déçu. C'est toujours du grandiose et même du jamais vu. Alors fin mars, mais merci à lui, car il remplit les nappes, les rivières, notre assurance vie peut-être de l'été. Merci pour l'eau qui nourriront les sources. Alors on passe à Pâques. Christ est ressuscité et la paix, enfin. Comment dire? Retour des cloches qui s'envoient en l'air et évite les missiles. Laissons-les pacifier ou s'entre-déchirer, économiquement, physiquement. Ils ont l'air d'aimer ça. Alors Dieu s'est un peu éclipsé quand il a vu le résultat du chantier en laissant les clés aux humains. Trêve des confiseurs, des couvées et des œufs en chocolat, cacao à 10 000 euros la tonne, dépassant le cours du cuivre, eh oui. Le cacao est une des causes de la déforestation croissante. L'Afrique de l'Ouest, à elle seule, concentre les trois quarts de la production mondiale. Et 94% de la forêt de Côte d'Ivoire et 80% de la forêt du Ghana, donc les plus grands producteurs de cacao de la région, ont disparu au cours des 60 dernières années, en grande partie à cause de la culture du carré de chocolat qui nous fait tant plaisir. Alors la pauvreté des agriculteurs reste inchangée et les enfants toujours travaillent pour notre gourmandise. Tenez, je vais faire un petit tour à Baltimore aussi. Un bateau containérisé se paye le pont. Une monstruosité marine made in Singapour, prénommée Dali. Dali, c'est le nom de ce bateau. Les moustaches hérissées en cornes de taureau qui foncent sans regarder. Les montres molles seront-elles remises à l'heure? Un bout de mondialisation percuté par le porte-container trop amoureux d'un pont. Or, ce sera juste une égratignure dans l'histoire emballée de ce monde en folie. Mais surtout, les enfants, ne bousculez pas trop les buissons en avril, car il y a du monde dedans, et du beau, du fragile, de la vie en devenir. Mésange bleu rikiki, seul capable d'arrêter jusqu'en septembre le massacre des arbres du chantier de la A69, qui déroulera son bitume en polluant les habitants depuis leur rang. Car il y a des lois et des gens qui s'emploient à les faire respecter au moins un temps. Alors, la maltraitance de l'État envers les manifestants dont s'est ému l'ONU? Moi, circulez, descendez de vos arbres, la vitesse, c'est la vie, vous n'avez rien compris ou quoi? Ah, heureusement, regardez, des bébés merles avec deux petites plumes à la queue sortent prudents dans votre jardin. Trois hirondelles, pas frileuses, mais pressées, ont déjà débarqué. Eh oui, il va falloir compter les migrateurs autrement que sur les doigts. Cigognes, busards, bondrées, tourterelles des bois, huppes, insectes gros et gras, qui va revenir? C'est la grande inconnue du printemps et de ses surprises. Et ce sont d'ailleurs les seules migrations qui ne posent pas encore de problème à l'extrême droite. Pour entrer d'Afrique, il faut passer les déserts, les côtes du Maghreb, les filets meurtriers, de Libye, du Moyen-Orient, Chypre et ses braconniers. Oh là là, un drôle de sport olympique quand on pèse 10 ou 20 grammes. Alors en tout cas, prenez soin du vivant comme de vous-même. Les deux sont liés, main dans la plume, main dans la feuille. Allez, Calanque, Calanque, où êtes-vous? Eh bien au sud, pardi, bien sûr, Calanque marseillaise. Accueillez-nous dans ce beau parc national. Je vous emmène en bateau dans l'archipel du Riou. Mais avant, tenez, une autre mer.
se commoire.
À nous, c'était David Walter sur France Inter dans Ce haut de mon amour, ce qui nous permet de saluer nos amis de la Martinique avec un petit décalage quand même de 6 heures. Allez, on revient où ça? En Méditerranée.
Et on va bientôt quitter la rade de Marseille. Là, on arrive bientôt dans les eaux du cœur du parc qui commence devant le port de la Madrague. Et ensuite, on va passer le cap Croisette. On va quitter la ville pour la nature. Après, il y a une particularité à Marseille qui a longtemps été méconnue ou sous-valorisée, c'est les grands espaces naturels qu'il y a autour de la ville. Et là, d'ici, depuis la mer, on peut voir le massif des Calanques qui borde toute la ville au sud, le massif de l'Étoile et du Garlaban, et puis derrière nous, le massif de la Nerthe, sur lequel il y a aussi 3500 hectares protégés par le Conservatoire du Littoral, qui est un massif vierge. Donc Marseille est enserrée par des grands massifs naturels qui permettent à n'importe qui, de n'importe quel Marseillais, de pouvoir s'échapper avec un ticket de bus ou un ticket de métro.
Eh ouais, c'est pas mal. C'était un petit matin dans Marseille, alors il y avait peu de voitures, pas de klaxon. Le Fort Saint-Nicolas qui était à côté, le Pharo au loin, Notre-Dame qui nous garde. Rendez-vous au pied du Mucem, je passe te prendre avec le bateau à 7h30, me dit Alain Mante. Je lui passe le vélo et hop là, bienvenue donc dans le parc national des Calanques qui naissent dans le 8e arrondissement de Marseille. et victimes de leur attrait, hein, soumis à un très fort niveau de pression, les enjeux de cohabitation entre la ville et donc l'espace protégé donnent le vertige. Il faut bien le dire, le regard vraiment est en train de changer. Le parc fait son travail de pédagogie, de répression aussi, quand c'est nécessaire. Et l'équilibre qu'un cas se crée, on va dire, doucement. Au printemps 2012, le premier parc national périurbain sort de son bourgeon étatique. Les innombrables fossiles incrustés dans le calcaire témoignent d'une histoire qui a commencé à il y a plus de 100 millions d'années par l'accumulation de sédiments au fond de la mer. Et puis un soulèvement à l'ère tertiaire, époque de la formation des Alpes, et c'est parti. Alors ce parc est maritime et terrestre, végétal et minéral, rural et urbain. À la Mante est une mémoire vraiment vive du parc. Et dès qu'il est sur son bateau, il devient de la mer. Il est notre guide. On était bien dans cette belle matinée. Embrun, vent, clapot, la nature et la mer, toujours recommencer.
Là, on est vraiment sur la zone frontière entre la zone urbanisée et puis la zone, le massif des Calanques.
On change totalement. Hein. On a quitté donc les Goudes.
Et là, on voit plus de traces d'habitation.
Ouais, ça y est.
Au niveau du Cap Croisette, on retrouve le même type de végétation qu'on a sur les îles. En fait, on est sur un secteur sur lequel le patron est le Mistral.
Eh oui.
Donc, c'est un endroit qui est particulièrement exposé au Mistral. On voit ces taches de végétation qui poussent au ras du sol. En fait, ce qui se passe, on est sur le site le plus aride de France, avec 350 mm d'eau par an, une aridité qui est encore renforcée par le vent, un fort ensoleillement, un manque total de sol. Et donc les plantes qu'on retrouve sur cette zone-là sont les mêmes qu'on retrouve sur les îles. Donc on a plus de 23 espèces protégées. Et la particularité de ce site, malgré son aspect aride et pelé, c'est que où que l'on se trouve sur ces rochers, on a toujours 3 ou 4 espèces végétales protégées à proximité. Et c'est une flore qu'on ne trouve que sur ces rochers.
Et la force aussi de ce parc, certains peut-être l'ont décrié évidemment au départ, mais c'est de mettre en lumière justement toute cette nature. Les Marseillais donc le savaient, mais enfin ils utilisaient, on va dire, les Calanques. Et là peut-être qu'il y a un regard qui a un peu bougé, un changement de focal.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Bon, il y a eu énormément d'angoisse, d'inquiétude au moment de la création du parc, ce qui est normal, hein, puisque
ça veut dire que c'est un lieu d'interdiction pour les gens.
Voilà, donc il y a toujours les grandes peurs, les grandes inerties au changement. Il y avait un constat qui avait été fait très tôt sur le fait que les Calanques étaient de plus en plus fréquentés, sur le fait qu'on se retrouvait avec un patrimoine qui petit à petit allait se dégrader, avec aussi une mosaïque foncière, avec différents propriétaires. Si on regarde la carte des Calanques, on entend les alarmes de Faucon Pèlerin.
Ah oui.
En fait, il y a l'adulte qui est en train de m'ouvrir, et il y a les 3 qui suivent l'adulte. Tu vois, là ?
Ça y est.
Il y a les 3 jeunes qui harcèlent l'adulte pour avoir à manger. Là, on est dans la période où les jeunes Faucon Pèlerin viennent prendre leur envol. Les adultes continuent un petit peu à les nourrir, mais ils leur apprennent aussi à se débrouiller tout seuls.
C'est vraiment des jeunes qui quémandent.
Moteur coupé. Alors là, faites-nous les présentations, parce que nous sommes dans cet archipel du Riou, avec le navire amiral, et pour cause, hein, parce qu'il ressemble vraiment à un navire de guerre.
Riou, donc, qui culmine à 190 mètres. Ouais. Ensuite, on a l'île Maire qui est à l'entrée, qui monte à 130 mètres. Et en fait, ces îles ont longtemps joué un rôle important de par leur situation géographique pour la défense de la ville. Très tôt, il y a eu une vigie, on a des traces d'une vigie qui date du XIIIe siècle, qui était au sommet de Riou, qui correspondait soit par des fumées, soit par des feux, soit par des voiles, avec la vigie qui était au sommet du massif de Marseille-Eveille, qui, elle, correspondait ensuite avec la vigie qui était sur le mont de la Garde, où se trouve aujourd'hui la basilique de Notre-Dame de la Garde. Et donc c'est comme ça que...
D'où le nom de la garde.
D'où le nom de la garde. C'est comme ça que la ville était... Enfin, c'était les premières alertes en cas d'arrivée de bateaux ennemis qui venaient faire des razzias sur Marseille.
Et alors aujourd'hui, ces îles, si on regarde ça d'un point de vue écologique, d'un point de vue naturaliste, c'est l'interface entre quoi et quoi ?
Alors, ben, ces îles, comme la plupart des îles de Méditerranée, sont un petit peu les perles autour de la Méditerranée. Ce sont des refuges pour la biodiversité littorale. Autrefois, les plantes qu'on trouve ici devaient se trouver sur toute la frange littorale qui maintenant est urbanisée. Ces îles, comme la plupart des petites îles de Méditerranée, sont des refuges pour la biodiversité littorale. Et c'est l'interface avec le grand large, puisque c'est sur ces îles-là que nichent des oiseaux marins pélagiques, les procellaridés, les puffins cendrés, les puffins de Méditerranée, les océanes de tempête, qui sont des oiseaux qui sont de la famille des albatros, ouais. qui passent leur vie au large, en mer. Tiens, un cormorant huppé.
Allez, il décolle.
Cormorant huppé de Méditerranée. Et donc, c'est des oiseaux qui passent toute leur vie en mer, au large, et qui viennent à terre que pour se reproduire. S'ils avaient trouvé moyen de pondre un œuf sur l'eau,
oui, il l'aurait fait.
On ne les verrait jamais.
Oui, c'est ça.
Et on a cette particularité aussi d'avoir des canyons, ce qui fait qu'on peut retrouver, en gros, le plus grand mammifère marin, qui va être le rorqual commun, qui peut faire plusieurs dizaines de tonnes. Et dans les collines, on peut trouver le pachure étrusque, qui est une toute petite musaraigne qui fait 2 grammes.
Bon, on a du goéland en pagaille, là aussi, hein, donc c'est le goéland Le Coffey que vous avez ici.
C'est le goéland Le Coffey, oui. Et quand l'archipel de Riou a été acheté par le Conservatoire Littoral, on a commencé à faire les premiers recensements sur l'ensemble des îles. Mmh. Et en fait, le goéland Le Coffey, c'est une espèce un petit peu particulière, c'est une espèce côtière, donc par rapport aux puffins qui sont des oiseaux pélagiques qui vivent au large. Le goéland Le Coffey, c'est une espèce qui est assez symbolique, puisqu'elle nous renvoie, comme la plupart des espèces de goéland, c'est une espèce qui est plastique dans son alimentation, qui est capable de se nourrir à terre comme en mer.
Ils adorent les décharges.
Voilà. Dans les années 70, à peu près, c'est une espèce qui a découvert qu'il y avait une autre espèce qui vivait à proximité.
L'humain.
Voilà. Qui avait réussi à produire beaucoup plus de nourriture que ce qu'il consommait et qui a jeté cette nourriture en quantité. C'était le début de la société de consommation. Et donc, à partir des années 60-70, on a vu les populations de goélands ne plus se nourrir en mer, mais aller se nourrir principalement sur nos décharges d'ordures, ou sur lesquelles la table était mise tous les jours, et ils étaient livrés par camion. Et donc ça a duré jusque dans les années 2000.
Alors, explosion de la population. Alors ça veut dire déséquilibre.
Ça veut dire, et sur les îles, ça a été assez catastrophique. C'était le facteur numéro un de dégradation des écosystèmes insulaires. Ici, par exemple, sur l'archipel de Riou, on sait qu'il y avait 100 couples. Au début du siècle, d'après les données des anciens ornithologues. Et puis, on est monté dans les années 70 à une dizaine de milliers de couples pour atteindre un maximum de 23 000 couples en 2005. 23 000 couples, ça représentait à l'époque, sur les îles de Marseille, la moitié de la population française qui nichait sur ces îles.
Là, on s'approche d'un bateau sur l'île de Riou.
Monsieur, bonjour. Ça va, vous êtes au calme? La police d'environnement, je vois que vous avez une canne.
Ouais.
Vous savez qu'on est dans une zone interdite.
Hein,
voilà. Si vous pouvez la mettre à l'intérieur, de façon à éviter de créer la confusion pour d'autres personnes. Vous connaissez la réglementation là?
Je sais qu'on n'a pas le droit de toucher là-dedans.
Ouais. Attendez. Regardez les zones. Hein. Vous êtes là depuis hier soir?
Merci.
Allez, bonne journée.
Et donc, bon, voilà, il y a un travail de police. C'est certain qu'en termes d'effectifs, on est largement en dessous de ce qu'il faudrait avoir. Maintenant, ça va être compensé par l'été. On recrute des éco-gardes qui sont là pour faire de l'information, de la médiation. Et puis, il y a un dispositif tout à fait particulier qui a été mis en place dès le début de la création du parc. C'est le groupe opérationnel Calanque, qui est piloté par le procureur de la République de Marseille et qui réunit chaque année l'ensemble des services qui interviennent en mer ou à terre, de façon à ce qu'on ait un travail de concerté et harmonisé avec les autres unités de police.
On arrive avec des nuances de bleu différentes là de l'eau. Waouh ! Donc, île du Riou. Et là, on est sur une petite calanque. C'est assez prisée.
C'est laquelle ?
La calanque de Monastério. C'est la seule petite plage accessible.
Allez.
Après, le paradoxe de cette eau turquoise, c'est que souvent on associe l'eau turquoise à la Méditerranée ou à la mer des Caraïbes.
Ouais.
Et en fait, le problème, c'est qu'ici, quand on a de l'eau turquoise, c'est qu'on a du sable, c'est que la Posidonie a été arrachée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est assez paradoxal.
C'est très pauvre.
C'est très beau, c'est très joli, mais c'est un signe de...
Il vaut mieux des verts et des gris. Hein,
il vaut mieux voir une eau noire dont le fond est tapissé de Posidonie. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir cette eau limpide et bleue, quoi.
Allez, un petit créneau. Tac. Alors là, autre zone intégralement protégée, on ne fait pas de plongée ici. Et ça a été en fait un des premiers lieux de plongée archéologique.
Voilà, là on est devant le Grand Congoué,
Et c'est ici qu'en 1954, le commandant Cousteau avait eu vent de la découverte d'épaves sous-marines antiques avec
des
amphores qui avaient été découvertes par un apnéiste local. Et donc c'était le début de l'aventure de la plongée où venaient d'être mis au point les premiers détendeurs, les premiers scaphandres autonomes. Et donc Cousteau est arrivé ici avec une équipe et a recruté des petits jeunes des Calanques qui étaient Albert Falco, Georges Beuchat, enfin, tous les premiers plongeurs qui avaient commencé à faire de la plongée sous-marine et de l'apnée, de la chasse sous-marine dans le secteur. Ça a été le début des premières fouilles archéologiques organisées au monde, quasiment. Quoi. Et donc là, on retrouve sur la paroi quelques plaques qui montrent qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas encore toutes les données, les techniques de sécurité de la plongée, puisqu'il y a plusieurs plongeurs qui sont morts. On ne connaissait pas encore à l'époque les risques liés à la plongée. Et donc cette zone qui est préservée depuis pour son intérêt archéologique a été maintenue au sein du parc, ce qu'on appelle le triangle Cousteau. C'est une zone sur laquelle qui est intégralement protégée puisqu'on n'a pas le droit de mouiller, on n'a pas le droit de plonger aussi sur ce milieu-là. Les plongeurs plongent bien à proximité. Et donc c'est une des zones marines très protégées.
Donc une richesse folle là-dessous.
Puisqu'on est toute pêche est interdite, tout mouillage est interdit. Ça permet d'avoir un site sur lequel il n'y a aucune activité humaine, ce qui permettra d'avoir un site de référence dans plusieurs dizaines d'années qui sera intéressant en termes de suivi.
Restez avec nous parce qu'on va encore se promener avec Alain Mante et on va parler du puffin cendré. Vous ne le connaissez pas bien, et le poisson lune aussi, eh bien, il nous attend. Oh, 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 des Marseillais.
À l'encre bleue d'un vieux stylo au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuages, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent et d'odeur du rivage. Dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y peux rien, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. À l'encre bleue
que c'est bien. Merci Thierry Dupin d'avoir choisi Moussuté et les Jovennes sur France Inter.
Les poissons ont de si jolies têtes qu'on est obligé de les déplacer fréquemment à cause des ravages qu'ils font dans le cœur des méduses.
CO2, mon amour.
Les cœurs de méduses ravagés vont s'échouer dans les ports sous forme de pétroliers ou de charbonniers.
Sur France Inter.
Les méduses elles-mêmes ne sont jamais repêchées. Un nouveau cœur leur pousse, bien plus grand que le premier.
Denis Chessou.
Voilà, donc si vous rencontrez une méduse, enfin surtout si vous rencontrez une méduse, vous savez que vous avez au moins 98% de flotte dedans, hein, c'est comme ça. Calanque, cale escarpée, vallée creusée par une rivière du sud, ça c'est la définition. Alors nous on est sur la mer avec Alain Mante dans ce parc national des Calanques, et là on les voit sur une vingtaine de kilomètres, cette succession on va dire dense et de criques. C'était une journée ensoleillée, mistralisée comme elle l'est un jour sur deux, toujours avec Alain Mante dans ce parc sur la mer.
On a des populations qui sont isolées sur ces îles depuis des milliers d'années, depuis que le niveau de la mer est remonté. Et donc on a des écosystèmes qui sont simplifiés, qui sont fragiles, parce que la moindre introduction d'une nouvelle espèce peut avoir des conséquences catastrophiques. Et notamment, on trouve sur ces îles, qui fait un peu l'union avec d'autres secteurs de Méditerranée, c'est un petit gecko nocturne qui est le Philodactyle d'Europe, qui est un petit gecko qui est présent sur la plupart des îles de Marseille, qui est chez nous en limite nord de son aire de répartition mondiale, qu'on va retrouver sur les îlots de la Corse, les îlots de la Sardaigne, les îlots d'Italie, qu'on va retrouver en Tunisie sur l'archipel de la Galite. C'est un peu un des mystères de la biogéographie, comment ces populations se sont retrouvées uniquement au monde sur ces petits territoires insulaires, et on les retrouve sur un petit îlot qui est l'îlot du Torpilleur, qui est tout près de la côte, à 50 mètres de la côte aussi, sur les îlots d'Andoum, qui sont aussi très près de la côte marseillaise, mais on ne les retrouve pas sur le continent.
Là, on a une chance inouïe parce qu'on ne s'est pas encore fait fianter dessus, alors qu'on a du monde. Là, ça y va.
En fait, les goélands sont un auxiliaire de surveillance assez efficace. Dès qu'on tourne pour faire de la surveillance autour des îles, Si jamais les goélands tournent, si jamais quelqu'un débarque ou s'aventure sur une île, on est de suite informé.
Parlez-nous de ce puffin que vous aimez beaucoup. Donc cet oiseau pélagique qui se fait sa grande migration, qui va revenir au bout de 5 ans et qui est à l'origine de l'histoire des sirènes. Quand on lit Homer.
Nous sommes habitués à la petite sirène de Walt Disney, oui, avec la sirène à corps de poisson et à tête de femme. Mais en fait, à l'origine, les sirènes qui ont égaré les compagnons d'Ulysse étaient des oiseaux à tête de femme. Et en fait, notamment le puffin de Méditerranée, c'est un puffin qui, la nuit, qui pousse des cris, la nuit, des cris très plaintifs, qui pourraient faire penser à des appels féminins. Et on peut imaginer à l'époque les gars qui étaient embarqués sur ces bateaux entre hommes depuis quelques semaines, voire quelques mois, qui, en entendant ces cris et ces appels, auraient eu envie de se mettre à l'eau pour aller voir. Et la zone sur laquelle se passe la séquence des sirènes dans l'Odyssée, ça se passe au sud de Naples, sur les îlots de Gallo, où il y a des populations encore de puffins et de poissons.
Arrête ton éveil. Ta place est ici, parmi nous. Nous renvoyons les voyageurs plus riches, plus heureux. Abandonne les dangers de la mer, la pourriture du corps. Libère-toi, Ulysse. Viens avec nous. Viens.
Alors, si on résume très vite l'histoire du puffin. Donc, je vais naître à quel endroit? Je fais un grand voyage qui me mène jusqu'où?
Là, actuellement, le puffin cendré est en train de couver. Chaque couple pond un seul œuf, élève un seul poussin. Ce poussin, au mois d'octobre, est laissé dans son terrier alors qu'il est...
Il a musclé ses ailes,
il est prêt à partir, les adultes partent avant. Les poussins se retrouvent tout seuls au fond du terrier et on pense que ça a une importance cette période-là parce que tous les soirs, il sort de son terrier et il doit certainement identifier le ciel.
Il regarde les étoiles.
Les étoiles. Il va ensuite quitter une nuit, faire le grand saut, partir du terrier qu'il a toujours connu et partir en mer. Et va sortir de Méditerranée, enfin descendre, suivre les Baléares, la côte espagnole, va sortir de Méditerranée, et puis va descendre le long de la côte du littoral africain, passer un peu de temps sur les zones où il y a pas mal de poissons au large de la Mauritanie, sur le delta du Sénégal. On retrouve les adultes au niveau du golfe de Guinée, il y a une grosse concentration qui se fait à ce moment-là. Et Ensuite, ces poussins vont continuer à traîner pendant 5 ans dans l'océan Atlantique. Certains partiront jusque sur les côtes du Brésil.
Et c'est seulement après 5 ans qu'ils vont revenir ici.
Après 5 ans qu'ils vont revenir à proximité de la colonie qu'ils avaient vu naître. Oui. On sait que les mâles viennent, sont très philopatriques, c'est-à-dire ils viennent sur la colonie où ils sont nés en général. Et là, ils vont chanter, ils vont pousser des cris, ils essayent de fixer une partenaire. Et c'est comme ça qu'on va les retrouver. S'il y a des terriers qui sont à proximité, ils vont créer une nouvelle, un nouveau gîte. Mais sinon, les adultes peuvent revenir pendant plusieurs dizaines d'années nicher chaque année avec le même partenaire dans le même terrier. Quoi. Ce qui est assez fabuleux, puisque bon, avec, on les bague depuis ça fait 20 ans qu'il y a un programme de bagage qui est en cours. Et donc... C'est assez remarquable de voir la fidélité au site, la fidélité aux partenaires, et pour des oiseaux qui font des milliers de kilomètres et qui vont nourrir, même pour nourrir leurs poussins, là, les plus fins cendrés, vont s'alimenter à plusieurs centaines de kilomètres d'ici.
Et il sort le matin, il sort le soir, hein, principalement.
Voilà. Il sort le matin avant le lever du jour. Ouais. Et c'est le soir, une fois que la nuit est bien noire, qu'on les entend revenir sur les colonies.
On peut voir du temps, c'est bien enterré.
Ben, le reste du temps, il reste la nuit dans son terrier. Ouais. Et puis, le reste du temps, il est en mer, au large. Donc, on peut trouver des radeaux de puffins. Les marins ont l'habitude, quand ils sont au large, de croiser des radeaux d'oiseaux pélagiques. Que ce soit en général, ici, ça va être du puffin cendré, du puffin de Méditerranée.
Jumelles. Le père. Ouais. Si on voit que ça bouge là-bas.
Ouais. Ah ben c'est du dauphin.
Hein. Ah oui, ça sort.
Grand dauphin qui en transit.
Ah, quand on dit en transit,
ça veut dire qu'ils se déplacent. Des fois, on peut les voir jouer.
Ouais.
On peut les voir sauter. On peut les voir s'amuser. Ils ont des comportements sociaux. D'autres fois, on peut les voir simplement traverser à vitesse constante.
Ouais, c'est ce qu'on a,
des fois, on peut les voir en train de s'alimenter. Donc en général, bon, ce qu'on demande aux gens, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de se maintenir à distance.
Ça ne fait pas de bruit.
Oula.
Un poisson lune, c'est la période au mois de juin. On a les surprises de poisson lune, c'est un poisson qui reste normalement en profondeur. Et au mois de juin, tu vois les ailerons qui,
c'est dingue, ça aussi.
Qui sortent de l'eau.
Ça, oui.
Très souvent, on croise des gens qui sont tout affolés, des plaisanciers, qui nous disent « on a vu les requins, on a vu un requin ». Et quand bon, on leur explique qu'au mois de juin, c'est plutôt du poisson lune que du requin.
On va juste rappeler.
Et c'est assez fabuleux parce que c'est un poisson qui est très rond, pas du tout de forme hydrodynamique, et qui arrive en période de reproduction, ça c'est la période des parades nuptiales, il arrive à sauter au-dessus de l'eau et à retomber.
Ouf.
C'est assez spectaculaire comme poisson. Le mola mola.
Ah là là.
Il a son dé sûrement.
Ouais,
en général, quand on voit l'aileron, on s'arrête à côté, et puis au bout d'un moment, il descend en profondeur.
Ah.
C'est mola mola, je crois aussi.
Hop là.
Un autre poisson lune qui a sauté à la surface de l'eau.
Allez, jette un œil.
Tu l'as vu sauter ?
Ah ouais, ça y est, bien sûr. Et encore un bond.
Ouais, t'as vu ?
Oh la fête.
Mais c'est, je ne sais pas ce que c'est lui.
Votre travail, vous, c'est de garder cette quiétude.
Voilà, il y a des gardiens de musée qui gardent des œuvres d'art.
Ouais.
Et notre travail, c'est de garder ce patrimoine naturel, le conserver tel quel, essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils aient un comportement qui permette le respect des lieux et faire en sorte que leurs enfants ou leurs petits-enfants puissent l'apprécier autant que ce que nous, on peut l'apprécier.
Vous êtes en fait chez vous, parce que vous êtes sur une petite île méditerranéenne.
Ah ben oui, c'est le fait bon. Disons que quand on a grandi à Marseille, on est un peu partout chez soi en Méditerranée, comme quand on a grandi peut-être à Naples ou à Oran, alors que si on va à Sisteron, on est à l'étranger. Et c'est vrai que quand on grandit au bord de la Méditerranée, on est autant méditerranéen de France que français de Méditerranée.
Mon cher Alamante, on va se quitter. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ? On est encore sur le bateau, sur votre Falco. Et que peut-on vous souhaiter, donc, ici dans ce parc à l'avenir ?
On espère profiter encore longtemps et puis arriver à réussir l'enjeu de conservation de cet espace naturel à proximité d'une grande ville et arriver à faire en sorte que tout le monde adhère et participe. Enfin, chacun est propriétaire ces espaces naturels et a aussi la responsabilité de se défaire de ses comportements urbains quand il rentre dans cet espace naturel assez remarquable, que ce soit en mer ou à terre.
Eh ben, un grand merci Alain, puis à très bientôt.
Bon ben, on va retourner à terre, je vais te ramener avec ton vélo.
Oui.
C'est la première fois que j'embarque un vélo sur ce bateau.
C'est la première fois qu'il monte dessus aussi, il faut dire.
C'est une première fois.
C'est
voilà.
Bien, c'est parfait.
Bon ben, bon retour et à bientôt Denis. Allez, on va laisser les
dauphins et les poissons lune.
Les dauphins et les poissons lune vivre leur vie.
Mais mon vélo était très content de cette balade. Je pense même que vous avez une photo sur le site de CO2, mon amour. Donc on quitte ce parc, à la fois parc national, on les remercie. Je remercie beaucoup donc le parc national des Calanques, terrestre sur 8500 hectares et marin sur 43 000 hectares. Merci à Alain Mante, merci à Rémi Sistiaga, à Maxime Goudard qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanès, Juliette Gou qui l'a très bien colorisé. Et la semaine prochaine, on va se retrouver. Allez, on change de lieu encore. En Ariège, j'y suis pas allé depuis très très longtemps. En Ariège, on va aller dans le Couserans avec un berger de son, avec Alain Laribet. Et puis, puisque nous parlions de d'oiseaux, eh ben on vous a concocté après 5 podcasts sur les arbres, que vous pouvez toujours écouter hein, auprès de nos arbres. Eh ben là, vous avez 6 podcasts. Parole de Piaf. Alors, Parole de Piaf, vous allez retrouver du cygne, de la chouette-ulotte, des hirondelles, des aiglons et leur envol, des flamants roses et même des corvidés et des corbeaux. Hein, tout ça, Parole de Piaf, sur l'appli Radio France et sûrement d'autres applications. Et ce sera, à mon avis, pas mal pour se faire du bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de dimanche.